C'est là sans doute qu'on rejoint ce qu'il y a de plus essentiel dans les hétérotopies. Elles sont la contestation de tous les autres espaces, et cette contestation, elles peuvent l'exercer de deux manières. Ou bien, comme dans ces maisons closes dont parlait à l'instant Aragon, en créant une illusion qui dénonce tout le reste de la réalité comme illusion, ou bien au contraire, en créant réellement un autre espace réel, aussi parfait, aussi méticuleux, aussi arrangé que le nôtre est désordonné, mal agencé et brouillon. C'est ainsi qu'ont fonctionné, au moins dans le projet des hommes, pendant un certain temps, au XVIIIe siècle surtout, les colonies. Bien sûr, ces colonies, on le sait, avaient une grande utilité économique, mais il y avait des valeurs imaginaires qui leur étaient attachées, et sans doute ces valeurs imaginaires étaient-elles dues au prestige propre des hétérotopies. C'est ainsi qu'au XVIIe, au XVIIIe siècle, les sociétés puritaines anglaises ont essayé de fonder en Amérique des sociétés absolument parfaites. C'est ainsi que, à la fin du XIXe siècle, au début encore du XXe siècle, Lyautey et ses successeurs dans les colonies françaises ont rêvé de sociétés hiérarchisées et militaires. Sans doute la plus extraordinaire de ces tentatives fut-elle celle des jésuites au Paraguay. Au Paraguay, en effet, les jésuites avaient fondé une colonie merveilleuse dans laquelle la vie tout entière était réglementée. Le régime du communisme le plus parfait régnait, puisque les terres appartenaient à tout le monde, les troupeaux appartenaient à tout le monde, seul un petit jardin était attribué à chaque famille. Les maisons étaient disposées en rang régulier le long de deux rues qui se coupaient à angle droit. Sur la place centrale du village, il y avait l'église au fond. D'un côté, il y avait le collège. De l'autre côté, il y avait la prison. Les jésuites réglementaient du soir au matin et du matin au soir méticuleusement toute la vie des colons. L'Angélus sonnait à 5 heures du matin pour le réveil. Puis, il marquait le début du travail. Puis, la cloche rappelait à midi les gens hommes et femmes qui avaient travaillé dans les champs. À 6 heures le soir, on se réunissait pour dîner. Et à minuit, la cloche sonnait à nouveau. C'était la cloche qu'on appelait du réveil conjugal, car les jésuites tenaient essentiellement à ce que les colons se reproduisent. Et ils tiraient allègrement tous les soirs sur la cloche pour que la population puisse proliférer. Elle le fit d'ailleurs, puisque de 130 000 au début de la colonisation jésuite, eh bien, les Indiens étaient devenus 400 000 au milieu du XVIIIe siècle. On avait là l'exemple d'une société entièrement fermée sur elle-même, qui n'était rattachée par rien au reste du monde, sauf par le commerce et les bénéfices considérables que faisait la société de Jésus. Avec la colonie, on a une hétérotopie qui est en quelque sorte assez naïve pour vouloir réaliser une illusion. Avec la maison close, on a en revanche une hétérotopie qui est assez subtile ou habile pour vouloir dissiper la réalité avec la seule force des illusions. Et si l'on songe que le bateau, le grand bateau du XIXe siècle, est un morceau d'espace flottant, un lieu sans lieu, vivant par lui-même, fermé sur soi, libre en un sens, mais livré fatalement à l'infini de la mer, et qui, de port en port, de quartier à fille en quartier à fille, de bordée en bordée, va jusqu'aux colonies chercher ce qu'elle recèle de plus précieux en ces jardins orientaux qu'on évoquait tout à l'heure, on comprend pourquoi le bateau a été pour notre civilisation, et ceci depuis le XVIe siècle au moins, à la fois le plus grand instrument économique et notre plus grande réserve d'imagination. Le navire, c'est l'hétérotopie par excellence. Les civilisations sans bateau sont comme les enfants dont les parents n'auraient pas un grand lit sur lequel on puisse jouer. Leurs rêves alors se tarissent. L'espionnage y remplace l'aventure. Et la hideur des polices, la beauté ensoleillée des corsaires.